France Culture.
Le 4 juin 1987, un article du Monde faisait part de cette nouvelle. François Pérou, le Claudel de l'économie, ainsi que titrait le journal, est mort. François Pérou fut sans doute à la fois l'économiste français le plus renommé, le plus fécond et le plus singulier de notre siècle. Voilà ce qu'on peut lire dans ce long hommage qui vante un économiste prophète dans la rénovation de la théorie de l'équilibre général, dans l'analyse des problèmes fondamentaux du tiers-monde et dont l'apport à l'économie appliquée était également considérable. Je cite là encore ce fameux article. La figure de François Pérou, né en 1903 et mort donc le 2 juin 1987, semble ainsi avoir marqué toute une génération d'économistes et d'intellectuels. Le récent travail de nos deux invités du jour laisse entrevoir une autre facette de cet économiste, à la fois méconnu et si reconnu. François Pérou, écrivent-ils, est plus qu'un professeur d'économie. Il est un économiste ayant participé à la rédaction du projet de constitution de Vichy, bien inséré dans les milieux réactionnaires, grand observateur des régimes fascistes qui s'instaurent en Europe tout au long des années 30. Pérou était avant l'occupation un candidat idéal pour porter la doctrine économique de Philippe Pétain au son du travail, famille, patrie, alors devise officielle de l'État français. Et de fait, c'est en porte-parole qu'on le retrouve sous le régime de Vichy, période qui marque aussi un tournant essentiel pour la discipline économique en tant que telle. C'est donc un portrait tout en paradoxe et en nuance que nous dressons aujourd'hui jusqu'à 15h, dans cette émission préparée par Paul Weinarter et programmée par Bruno Barada, réalisée par Cassandre Puel et mise en onde aujourd'hui par Nicolas Delmas. Ils étaient venus il y a quelques mois dans cette même émission nous parler d'un autre économiste qui a marqué l'histoire française, Alfred Sauvy. Ils reviennent donc aujourd'hui nous parler de François Pérou, auquel ils ont consacré un vaste travail de recherche et sont tous les deux maîtres de conférences en sciences économiques à l'Université Côte d'Azur et historien de la pensée économique. Nicolas Brisset, bonjour.
Bonjour.
Et Raphaël Fèvre, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci beaucoup.
Et je précise que vous êtes tous les deux avec nous à distance depuis les studios d'ICI Azur à Nice. Et je remercie Youssef Boubaker qui assure une liaison particulièrement essentielle aujourd'hui. Alors je vous propose pour commencer d'écouter justement la voix de François Pérou. C'était en 1963.
Il y a deux économies. Une économie des signes purement abstraits, de l'argent, de la monnaie. Alors, laissons de côté les mots et les abstractions. L'économie de l'homme, qu'est-ce que c'est ? C'est la valorisation de toutes les forces de production et de toutes les forces de consommation qui sont contenues dans l'être humain, l'être à visage humain. Alors, voilà la ressource. Il ne faut pas dire les ressources humaines parce que cela évoque déjà un marché. Les ressources humaines qui seront achetées comme les ressources en capital, comme les ressources en trésorerie, etc. Il s'agit de la mise en œuvre de la terre, et il s'agit de la mise en valeur de chaque homme et de tout homme en chaque homme. Ne pensez pas le moins du monde que ce ne soit pas économique, c'est la seule économie scientifique. L'économie qui ne se mesure pas en termes d'argent, mais en termes de rendement et de rendement humain.
Disons que s'il fallait exprimer en deux mots mon propre idéal d'économiste et de citoyen préoccupé de politique, je souhaiterais à la France une civilisation du travail et une civilisation de la création. C'est très différent, n'est-ce pas, de la pseudo-civilisation de l'enrichissement.
Un économiste, mais aussi un citoyen préoccupé de politique qui défendait là un idéal. On a là un bon résumé des différents aspects que François Pérou met lui-même en valeur, Nicolas Brisset. Il faut avoir en tête toutes ces dimensions si on veut bien comprendre le personnage et la façon dont il se considère lui-même.
Oui, effectivement, on est en face avec François Pérou d'un économiste qui se pense comme un intellectuel complet, porteur de projets économiques, mais également de projets de société, de projets politiques et de projets de société. Et c'est, je pense, comme vous le disiez un peu, sa marque, sa patte qu'on retrouve tout au long de sa carrière, du milieu des années 20, au moment où il publie sa thèse, jusqu'à son décès, comme vous le disiez, en 1987.
C'est donc un personnage complet qui a occupé une certaine place médiatique, notamment dans ces années 60-70, au moment donc de cette archive. On sollicite très souvent son avis. Il a un avis à peu près sur beaucoup, beaucoup de choses, on va dire, surtout, ce serait peut-être beaucoup dire. Alors, Raphaël Fèvre, nous l'avons dit, hein, François Perroux est né en 1903, il est mort en 1987. Or, c'est à une période très particulière de sa vie que vous avez consacré l'essentiel de vos travaux avec Nicolas Brisset, et donc à une de ses facettes, c'est-à-dire François Perroux en tant que l'une des figures les plus importantes de l'économie politique sous Vichy. Alors, on va revenir évidemment sur ce rôle, mais avant cela, pourquoi ce choix, Raphaël Fèvre, de se concentrer sur cette période-là précisément ?
Alors, on est venu à François Perroux, comme vous l'avez dit, par un chemin détourné, c'est-à-dire que c'était moins sa personne en elle-même qui nous intéressait que la période qui va, grosso modo, des années 30 jusqu'à l'occupation, au régime de Vichy et à la libération, parce qu'il nous semblait qu'il y avait un vide historiographique, historique sur cette question, en histoire de la pensée économique en particulier. On n'a pas tellement regardé ce qu'ont fait les économistes de cette période, le rôle qu'ils ont pu avoir et comment s'est développée la discipline économique elle-même. Et quand on a commencé à travailler sur cette question avec Nicolas Brisset il y a quelques années déjà, il nous semblait que François Perroux était peut-être l'un des fils rouges les plus intéressants pour commencer à rentrer dans cette histoire plus complexe qui convoque bien d'autres figures, mais dont l'une des plus centrales semblait être la sienne en fait.
Alors là, Raphaël Fèvre, puisque vous nous avez dit à l'instant que ce n'est pas tant la figure de François Perroux qui vous a intéressé, puis la période, mais plutôt l'inverse. C'est en travaillant sur cette période que vous êtes tombé, entre guillemets, sur la figure de François Perroux. Mais pourquoi, en tant que professeur d'économie, comme je le disais, vous vous êtes intéressé à cette période-là spécifiquement, à ce qu'on présente souvent comme la parenthèse de Vichy? Qu'est-ce qui vous intéressait aussi en tant qu'historien de l'économie dans cette période-là, précisément ?
Ce qui nous intéressait, c'était de remettre en cause cette idée assez largement admise, parfois en politique, si ça a été remis en cause après par les historiens comme Paxton en particulier, mais dans les sciences notamment, que cette période du régime de Vichy en fait était, une parenthèse, un moment où rien d'intéressant ne se serait fait, rien d'intéressant ne se serait dit en sciences et en sciences économiques en particulier. Et on avait pas mal d'indices, d'hypothèses qui nous poussaient à penser plutôt le contraire et à aller voir comment cette période de Vichy a été finalement une opportunité, une période d'accélération de certes de tendances qui pouvaient déjà exister dans les années 30 mais qui vont se solidifier, se mettre en place plus rapidement. Notamment un des points essentiels qui nous intéressait, c'est la place de l'économiste en tant qu'expert, et du coup on en revient à ce que disait Nicolas Brisset juste avant, c'est-à-dire la place de Perroux à la fois comme théoricien mais aussi comme porte-parole, comme contributeur, comme figure politique et intellectuelle qui le plaçait tout à fait sur cette ligne, en fait.
Et vous le dites, hein, du reste, cette période est essentielle pour comprendre aussi comment la profession en tant que telle d'économiste se considère elle-même. Mais elle est intéressante, Nicolas Brisset, parce que justement, il y a une sorte de point aveugle. Vous le dites d'ailleurs, hein, dans vos articles, l'histoire de la pensée économique ne s'est à ce jour guère attardée sur l'épisode historique du régime de Vichy. Comment est-ce qu'il faut considérer cela ? Un oubli, un manque d'intérêt, un oubli plus ou moins volontaire ? Comment expliquer le fait qu'on ne se soit pas vraiment penché sur cette période-là, alors même qu'il s'est, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais il s'est passé beaucoup de choses aussi du point de vue de la discipline économique.
Bon, c'est relativement symptomatique de la mémoire du régime de Vichy qu'on a eu dans la société française jusque dans les années 70-80. Hein, ce passé qui ne passe pas, pour reprendre les termes d'un historien célèbre. Disons que effectivement, juste pendant très longtemps, on a décidé de faire de ce régime de Vichy une parenthèse. Ça a été un coup de force, hein, aussi de communication de la part de Charles de Gaulle à la Libération, de considérer que la France était à Londres et pas à Vichy. Néanmoins, cet étau s'est progressivement desserré à l'occasion de travaux très importants d'historiens. Raphaël Fèvre citait Robert Paxton, donc son grand livre des années 70, La France de Vichy, à l'occasion d'un certain nombre de procès qui prennent place dans les années 70, dans les années 80, le procès Touvier, le procès Papon, où tout d'un coup on commence à regarder en face cette mémoire du régime de Vichy, le rôle que le régime de Vichy a pu jouer à cette période-là. Et en même temps, hein, dans cet élan-là, l'histoire des sciences à la période a commencé à se faire, l'histoire des statistiques notamment, qui était liée bien entendu aux politiques antisémites du régime, l'histoire de la physique, l'histoire de l'anthropologie, etc. Et c'est vrai que, pour des raisons qu'il faudrait peut-être travailler un peu plus profondément, l'économie a mis très longtemps à ouvrir cette boîte, cette parenthèse du régime de Vichy. Et lorsque nous avons commencé à travailler sur le sujet, lorsque nous avons ouvert les revues d'histoire de la pensée économique. C'est pas très compliqué, nous n'avons absolument rien trouvé, aucune citation, aucune référence à ce qui pouvait s'être passé au moment du régime de Vichy.
Ce qui est quand même un bon indice, l'absence d'indice est un bon indice en lui-même pour comprendre le positionnement et peut-être cette spécificité de la discipline économique, même si ce champ d'observation, ce champ de recherche ne fait que s'ouvrir en ce moment même, et notamment grâce à vos travaux. Et puis vous l'avez dit, Nicolas Brisset, à l'instant, il s'agit d'ouvrir cette boîte que représente cette période-là. En l'occurrence, Raphaël Fèvre, vous avez mené tous les deux des travaux très importants, et en ce qui concerne aussi la figure de François Perrault, des travaux très importants de recherche et notamment, on va dire, d'analyse d'archives. Et il faut mentionner ce travail-là. Comment sont gérées spécifiquement les archives de François Perrault, et puis qu'est-ce que vous y avez découvert ?
Alors, on a la chance avec François Perrault d'avoir accès à un fonds d'archives tout à fait faramineux, extrêmement riche, bien documenté, bien répertorié. Donc c'est vrai que ça a été aussi un point d'accès pour nous assez évident. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait cette archive, on s'est dit qu'on allait pouvoir documenter plus concrètement, au-delà de ses écrits seulement, ce qu'il avait pu dire et faire des années 30 à la période de l'occupation et de la libération. Ces archives sont détenues à l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui est à Caen, dans un lieu tout à fait magnifique, une ancienne abbaye avec une salle de bibliothèque, on peut dormir sur place, donc pour les chercheurs c'est vraiment des conditions tout à fait excellentes. Et on a une archive de 310 boîtes qui couvrent toute la période du travail intellectuel et de la vie de François Perrault, hein, bien au-delà de la période de Vichy évidemment. Donc là on a de la correspondance privé ou plus professionnel, on a tout son travail intellectuel, on voit en train de se faire ses livres, ses ouvrages avec différentes versions, toutes les conférences qu'il a pu donner dont on avait perdu trace, et puis aussi tout son travail peut-être plus administratif en quelque sorte, ou d'organisation scientifique qu'il a pu occuper, parce que lui-même c'était un grand organisateur et un grand animateur de la discipline, et donc il était en lien avec plein de personnes organisait ce travail. Et donc on a aussi tous ces éléments-là, disons plus administratifs, qui nous permettent de documenter cet aspect. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a eu accès à une véritable mine d'or.
Et ce qui est intéressant, Raphaël Fèvre, et vous venez de le mentionner, vous avez pu comprendre ce que François Perrault avait pu dire et faire. Il y a à la fois une très grande diversité de sources, mais aussi de nature de ces sources-là. Et c'est cette très grande diversité qui vous a permis d'émettre une hypothèse, celle d'un François Perrault véritablement porte-parole aussi au sein de ce régime de Vichy. Alors là, il faut nous expliquer comment, justement, ce travail d'archives vous a permis d'élaborer cette hypothèse-là, et pourquoi elle est fondamentale aussi, cette hypothèse sur véritablement le rôle et de ce qu'a incarné aussi François Perrault.
Oui, disons que si on s'intéressait, si on se consacrait, comme nous l'avons fait au début, à ses écrits, hein, ses articles et ses ouvrages principalement, on voyait des accointances, des connivences dans certaines des thématiques avec celles qui avaient pu être portées ensuite par Pétain et par la Révolution nationale. Mais c'est vrai que les liens de causalité ne sont pas évidents a priori quand on se place de ce point de vue-là. Or, les archives nous ont permis de montrer que Perrault va participer de différentes institutions du régime de Vichy. Donc ça a été tout à fait important, hein. Il est membre de la commission la rédaction du projet de constitution de Vichy au cours de l'année 41. Il va participer au conseil d'études économiques auprès du ministère des finances et de l'économie d'Yves Boutillier. Donc il y a tout un tas de d'occupations et d'activités qu'il a eu qui nous permet de montrer que ça va au-delà de ressemblance, de consonance de certaines des thématiques, notamment celle de la communauté de travail en particulier, puisque ça s'est incarné par certaines fonctions officielles, et puis, vous parliez de porte-parole, par de nombreux discours et prises de position publiques auprès de on pourrait dire de différents publics professionnels, mais aussi de l'opinion en général, où là on a eu accès à des conférences qui ont été ensuite dactylographiées, qui nous permettent de voir l'aspect du porte-parole que pouvait être François Perrault à cette époque.
Raphaël Fèvre, une petite parenthèse, s'il y a autant d'archives, qu'elles étaient aussi bien conservées, est-ce que c'est parce qu'il a des descendants ou en tout cas des disciples qui ont fait particulièrement attention à conserver tout cela
il n'y a pas forcément d'école Pérou, mais en tout cas, il y a une véritable volonté de conserver aussi sa mémoire et son apport à la discipline.
Oui, alors ça a été très important. Il n'y a pas forcément une école Pérou, comme vous le disiez, mais il y a quand même vraiment beaucoup de personnes, d'économistes, qui vont se revendiquer de la figure de François Pérou. Il y avait un institut qui s'est bâti autour de lui, on y reviendra peut-être, qui perdure jusqu'à aujourd'hui, même s'il est un peu moins actif. Et donc, je pense que lui-même était conscient ou pensait à l'importance et à la valeur de son travail. Et donc, il a préservé vraiment énormément de documents, donc ça a été une première richesse. Et ensuite, les personnes autour de lui ont dû aussi conserver ces documents avant qu'ils soient versés à l'IMEC, donc à cet institut d'archives. On sait qu'il a été versé en deux fois, c'est-à-dire il y a eu un premier versement qui venait de l'institut dans lequel il travaillait, dont il a été directeur très longtemps, et puis il y a eu un second versement qui venait de la famille et de documents supplémentaires qui sont arrivés ensuite, ce qui est assez classique en fait dans la dynamique de dépôt d'archives. Donc oui, je pense qu'il y a eu un travail conscient, ce qui pose une petite question aussi du contenu total des archives ou non. Bon, on sait que c'est jamais total, mais est-ce qu'il y a eu des choix de retirer, de laisser ou non certains éléments? Bon voilà, c'est quelque chose, l'archive ne fait pas vérité non plus. On sait qu'il y a des choses qui peuvent manquer ou qui ont été supprimées et il faut faire aussi avec cela.
Mais en l'occurrence, ces fonds disponibles vous ont permis tout de même d'éclairer d'une nouvelle lumière aussi, le parcours intellectuel et biographique de François Pérou. Or, Nicolas Brisset, et c'est là qu'on arrive peut-être au paradoxe principal et au point intéressant, c'est que c'est une autre facette de François Pérou qui est souvent mise en avant, je le disais avec ce fameux article du Monde de 1987. Et puis cette période-là, elle concerne bien davantage, on va dire, l'après 1944, date à laquelle il fonde ce fameux Institut supérieur d'économie appliquée. Dans un article toujours publié dans Le Monde, et un tout petit peu après le centenaire de sa naissance, en 2004, François Pérou est décrit comme un économiste inclassable, critiquant le libéralisme des néoclassiques, le marxisme et le keynésianisme pour construire sa propre théorie qu'il dit inspirée de Schumpeter, de Cournot et des économistes de l'école autrichienne. Avant même de comprendre peut-être le François Pérou auquel vous vous êtes intéressé, Nicolas Brisset, il faut peut-être nous raconter finalement ce qu'il incarne aussi pour la discipline économique en tant que telle. C'est un homme d'institution presque politique, mais aussi un théoricien. C'est comme ça qu'il a marqué la discipline ?
Oui, c'est une figure absolument primordiale dans l'après-guerre, dans l'histoire de la pensée économique d'après-guerre. Et c'est là aussi que la légende va petit à petit confronter les faits. Lorsqu'on a commencé à travailler sur François Pérou, la première image qui nous a été renvoyée, c'est celle d'un économiste iconoclaste hétérodoxe. Il est considéré comme un économiste hétérodoxe. Par la bande, je précise que longtemps, il a été présenté comme un économiste résistant. L'institut qu'il crée en 1944, l'Institut de sciences mathématiques et économie appliquée, a longtemps été présenté comme le fruit de discussions avec la résistance. Bon, on n'a pas trouvé d'indice particulier allant dans ce sens-là. Donc c'était, comme le disait Raphaël Fèvre, un grand organisateur de la science avec cette institution-là qui tournait autour de la planification à la française à partir de 1947 et qui a œuvré à modeler les concepts et les catégories de la comptabilité nationale naissante à ce moment-là. Ensuite, il devient professeur au Collège de France. Et là, il va plutôt s'intéresser à des questions, notamment d'économie, du développement. Et c'est essentiellement pour ça, aujourd'hui, que François Pérou est connu. Ceci étant dit, ce que vous signifiez, ce qui est signifié dans cette notice au moment de sa mort, le fait qu'il soit très inspiré des théories autrichiennes et de Schumpeter, renvoie à ses travaux des années 20, des années 30, puisque François Pérou a participé à la traduction des œuvres de Schumpeter, aussi de Mises, en France à cette époque-là. Et il a été très inspiré, effectivement, par cette école autrichienne-là.
Et c'est vrai qu'on voit là un portrait d'un économiste qui s'intéresse à beaucoup d'autres économistes aussi. Alors certes, il se spécialise, vous l'avez dit, dans les années 50, au début des années 50, sous un prisme de l'économie du développement. Il publie les trois outils pour l'analyse du sous-développement. En 1962, l'économie des jeunes nations, industrialisation et groupement des nations. Il a aussi préfacé, par exemple, l'œuvre de Marx lorsqu'elle paraît dans la collection de la Pléiade en 1963. Bon, on voit qu'il c'est au moins profil assez hétérodoxe au sens premier du terme. Mais vous l'avez dit, on peut faire remonter tout cela aux années 20, Raphaël Fèvre, et ça va nous expliquer aussi un peu les origines de sa réflexion et de son positionnement intellectuel. François Perroux soutient sa thèse en 1924, intitulée Le problème du profit, qui est publiée quelques années plus tard, en 1926, aux presses universitaires de Grenoble. À quoi s'intéresse-t-il dans ce travail au juste? Comment aborde-t-il l'économie alors qu'il est alors relativement jeune?
Il va prendre le problème de l'économie par une des questions jugées fondamentales encore aujourd'hui, qui est celle donc du profit, comment il se forme, est-ce que il est juste que le profit se fixe à un tel niveau. Alors quand on lit cette thèse qui est assez longue, c'est vraiment un travail à la fois d'histoire de la pensée économique sur la question du profit, hein, il repart des Grecs en passant par la scolastique, les classiques, jusqu'à arriver à nos jours et justement à ces fameux Autrichiens dont il nous dit que finalement la doctrine n'a plus abouti pour parler de la formation du profit. C'est finalement ce qu'il appelle lui le néo-marginalisme, le marginalisme issu de ces versions autrichiennes, Baumbauer, Wieser, inspiré de Menger. Et donc le taux de profit se fixe selon la productivité marginale à la fois du travail de l'entrepreneur et des capitaux qu'a pu investir l'entrepreneur. Donc c'est un travail théorique comme ça pour montrer la formation de cet apport-là. Et puis ce qui va l'intéresser aussi va être tout de suite assez critique en fait en nous disant ça c'est dans la théorie, mais dans la pratique avec l'organisation économique plutôt libérale, économie de marché que nous connaissons dans l'Europe des années 20, des années 30, et bien finalement ce taux de profit ne se fixe pas au niveau de cette productivité marginale, il se fixe largement au-dessus, et ce qui est problématique parce que ça se fait au détriment de la souveraineté des consommateurs qui vont avoir souvent accès à des biens en moins grande quantité à des prix plus élevés, et ça se fait également au détriment des travailleurs de l'entreprise en question, puisque le profit va se faire au détriment de la répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail. Et donc ça pose un problème d'après François Perroux, qui commence dès cette époque à esquisser dans la conclusion de sa thèse des solutions qu'il envisage, une meilleure organisation syndicale, des taxes sur les profits excessifs ou encore le contrôle du monopole et l'organisation plus largement d'un antitrust qui va être préoccupé par la formation de groupes de pouvoir dans l'économie. Donc déjà, on trouve à ce moment-là, dès sa thèse, un aspect très théorique pour lequel il va être très intéressé, et puis un aspect tout de suite pratique, en pratique comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher des solutions théoriques qui peuvent être développées.
Et concilier donc ces deux aspects, d'où l'hommage aussi sans Exactement. Doute en 1987 dans l'article du Monde à l'apport à l'économie appliquée de François Perroux. Vous avez dit à l'instant qu'il envisage déjà dans sa thèse des formes de solutions aussi à cette confrontation, on va dire, entre théorie et pratique. Nicolas Brisset, ces solutions-là, elles infusent progressivement, ces idées-là infusent, mais dans un contexte bien particulier puisqu'on en est là aux origines aussi de la formation de François Perroux et puis de son insertion aussi dans un certain milieu intellectuel et donc davantage biographique. Il faut mentionner que François Perroux est lyonnais d'origine, il est issu d'un milieu catholique qu'il fréquente assidûment. Ça a aussi une grande importance dans son parcours, Nicolas Brisset.
Oui, ça a une importance absolument fondamentale si on veut comprendre la pensée de François Perroux à cette époque-là. François Perroux est un intellectuel catholique qui, certes, publie dans des revues et des maisons d'édition d'économie, mais qui aussi participe à une œuvre assez particulière de rénovation de la pensée, catholique. Dans les années 30, François Perroux publie énormément dans une revue qui s'appelle La Vie intellectuelle, qui a été fondée par Jacques Maritain, qui est un des porteurs de ce qu'on appelle le néotomisme. Alors qu'est-ce que c'est que le néotomisme? C'est en quelque sorte l'idée selon laquelle la doctrine chrétienne s'est tenue de manière trop éloignée des affaires politiques de ce monde et doit maintenant réinvestir le champ politique avec des propositions d'organisation de la société qui vont au-delà uniquement des idéaux édictés par le dogme. Et dans ce cadre-là, l'idée parfaitement claire, c'est en quelque sorte de venir fonder une économie et une science sociale catholique qui viendrait concurrencer les autres propositions qui se développent au sein des universités. Et il y en a principalement deux auxquelles François Perroux s'attaque vertement et systématiquement à cette époque-là. Premièrement, le marxisme, pris dans une version extrêmement large, c'est-à-dire le syndicalisme de la CGT, la SFIO, le Parti communiste français, tout ça, c'est à peu près la même chose dans ces écrits de cette époque-là. C'est tout ce qui va mettre au centre du jeu la lutte des classes. Et d'autre part, il s'attaque de manière assez virulente à la sociologie durkheimienne, qui, à l'époque, est considérée par François Perroux, par toute cette ce groupe d'intellectuels catholiques comme le système de pensée ayant inspiré l'organisation de la troisième République. Et comme on le verra, peut-être François Perroux est un très très grand critique du système parlementaire de la troisième République. Et donc toute cette pensée corporatiste qu'on détaillera peut-être qui se met en place à cette époque-là, il faut l'entendre comme ce phénomène de rénovation de la pensée catholique.
Alors justement, pour bien comprendre, et on y vient de fait, Nicolas Brisset, pour bien comprendre, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ce que craint aussi François Perroux, ce contre quoi il se bat, ou en tout cas la raison pour laquelle il propose ces fameuses solutions, où il envisage un renouveau, une refondation aussi de la science économique. Je vous propose d'écouter un extrait d'un ouvrage qu'il a rédigé avec Yves Hurvoy, alors bien plus tardivement, en 1943, on verra dans quel contexte, mais qui nous explique, qui nous indique déjà aussi la façon dont il perçoit aussi le rôle de la France, et puis la proximité entre questions politiques et questions économiques. C'est donc un extrait de La Révolution en marche, paru en 1943.
L'accaparement des tendances sentimentales libérales de la Révolution de 1789 par une philosophie bien déterminée, l'individualisme jacobin, et un système de politique bien défini, le parlementarisme, est un bel exemple non seulement de dépassement exorbitant, mais de déviation des aspirations nationales du début de la Révolution. Un système doctrinal révolutionnaire est donc nécessaire, et ses principes profonds sont d'une importance très grave. Mais quelle est sa vraie nature ? Voilà un point capital, car il nous dicte le caractère de notre tâche. Il doit répondre à une double condition. En lui-même, il doit être logique, mais cela, suffisant pour les périodes de calme, ne l'est plus en période de crise. Il faut alors qu'il exprime aussi les aspirations révolutionnaires de la nation. Il vaut comme moyen d'expression d'une réalité plus profonde d'un autre ordre, car il n'aura une vraie efficacité que si la nation y retrouve l'expression de ses sentiments profonds, même inconscients. Son rayonnement, sa puissance d'action, lui viennent de sa chance, comme de son sens historique.
Raphaël Fèvre, on arrive là aussi à un point assez fondamental chez François Perroux et le reste de son itinéraire intellectuel. Il y a ce point un peu d'achoppement qu'est la Révolution française. Qu'est-ce que ça provoque chez François Perroux ? Est-ce qu'il y a une forme de sentiment de déclin généralisé de la nation française ? Est-ce que c'est cela la mission qu'il se donne ? Il parle clairement de mission.
Oui, exactement. On sent dans l'extrait que vous avez cité, ça ressort très très clairement que depuis la Révolution française a été une révolution manquée dans son aspect national et que depuis on assiste à un lent et long déclin de la nation française. Il y a vraiment un discours, alors qui n'est pas propre à François Perroux, entendons bien, mais qui dans lequel il s'insère complètement, qui est celui de l'amollissement de la nation, l'amollissement des corps et des esprits, l'embourgeoisement. Cette mollesse qui serait caractéristique, en tout cas, de la Troisième République, cette République libérale et parlementaire. Donc ça, c'est un point commun qu'on retrouve chez de nombreux auteurs conservateurs, cette critique virulente du parlementarisme et de ces chambres de députés qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, ou alors qui se mettent d'accord seulement par des calculs politiciens et qui ont oublié, en quelque sorte, ce qui serait l'intérêt supérieur de la nation. Et donc, Perroux s'inscrit totalement dans cette critique et à son sens, il faut faire une seconde révolution. Et donc, l'extrait que vous avez cité, c'est 1943. Bah, évidemment, il voit la révolution nationale de Pétain comme étant l'aboutissement véritable de cette révolution manquée, ou en tout cas le renversement, la réponse à la Révolution française. Cette révolution nationale permettrait de remettre la France sur le droit chemin d'une nation revivifiée suivant des mythes fondateurs.
Alors ça, c'est la réponse, c'est la solution très concrète telle que l'histoire l'a apportée liberté aussi. Avant cela, on pourrait se dire, Nicolas Brisset, que les temps doivent être durs pour François Pérouse à partir du moment où vous nous avez dit qu'il est en guerre, en bataille contre deux grandes écoles ou deux grands courants, que serait le marxisme d'un côté, la sociologie durkheimienne de l'autre. On pourrait dire, là, on se situe, pour redonner du contexte, dans les années 30. Hein, il est reçu major de l'agrégation de droit en 1928. Il enseigne à Lyon jusqu'en 1937. Ce sont des années qui voient tout de même l'avènement du Front populaire au pouvoir. Et vous avez dit vous-même que le socialisme, tout ce qui se rapproche du Parti communiste français, n'est clairement pas du goût de François Pérouse. Comment il vit cette période-là? Est-ce que ça redonne de l'importance à sa mission de proposer une autre solution, une autre voie pour la France?
Oui, effectivement. Alors, lorsqu'on lit les cours de François Pérouse qu'il donne en 1943 sous le régime de Vichy, ils ont l'avantage d'offrir sa vision de l'histoire. Hein. Mmh. Et lorsque Raphaël Fèvre nous disait « on est dans le cadre d'une pensée anti-révolutionnaire », eh bien, il va situer le Front populaire comme la suite, en fait, la deuxième phase de cette révolution manquée, qui va mettre en place un ensemble de ce qu'il appelle des droits protecteurs. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de fournir, selon lui, des meilleures conditions économiques, des meilleures conditions de répartition, ben on va mettre en place des lois pour encadrer le temps de travail, pour donc c'est la fameuse loi, la loi des 40 heures ou la loi de 1919 sur la journée de 8 heures, etc. Ce qui va avoir comme perspective peu réjouissante celui d'amollir les corps, d'amollir les esprits, de participer à cette décadence française. Hein, le discours de la décadence est bien entendu au centre de ces discours réactionnaires. Et 1936, c'est vraiment un point de bascule très très important pour la pensée de François Pérouse, puisque c'est à ce moment-là, en tout cas je pense qu'on peut vraiment mettre l'emphase là-dessus, que cette pensée corporatiste va pouvoir être récupérée. 1936, c'est donc, comme vous le disiez, Front populaire, ce sont les accords de Matignon, des accords de Matignon qui sont signés par les syndicats, les grands syndicats ouvriers, bien entendu la CGT en tête, mais aussi par les syndicats patronaux. Et le patronat, à l'extérieur de ces accords de Matignon, de la pièce dans laquelle ils sont signés, réceptionne extrêmement mal ces accords et considère à partir de là qu'il est très important de rénover la représentation syndicale patronale dans le cadre d'un patronat de combat qui va enfin pouvoir se battre et être force de proposition face au Front populaire. Et c'est à ce moment-là précis, en 1936, après juin 1936, que la doctrine corporatiste va devenir petit à petit une doctrine patronale qui va servir de contre-proposition au modèle du Front populaire. Donc on a, à ce moment-là, avant le régime de Vichy et l'avènement de ce régime proto-fasciste, dira-t-on, on a un premier moment d'instrumentalisation de la doctrine corporatiste au profit de la représentation patronale.
Alors Nicolas Brisset, là il faut faire un point essentiel et nous expliquer aussi ce qu'est cette doctrine corporatiste et la remonter encore un tout petit peu dans le temps, puisque cette doctrine-là est au cœur du voyage qu'entreprend François Pérouse en 1934-1935 dans toute l'Europe. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte aussi, qu'il formalise davantage aussi son approche de cette doctrine corporatiste. Alors de quoi s'agit-il là très concrètement, Nicolas Brisset?
Alors, de manière extrêmement prosaïque, la doctrine corporatiste consiste en une organisation de l'économie et de la société par grands corps de métiers. Dit rapidement, on pourrait considérer que c'est un retour à un ordre pré-révolutionnaire. Bien entendu, c'est pas aussi simple que ça. Avant le décret d'Allard, la dissolution des corporations du 2 mars 1791, reconstruisons, re-régulons l'économie de marché avec ces grandes corporations. Pour aller peut-être un petit peu plus loin, et je pense que c'est pour ça que c'était important de l'inscrire dans cette pensée anti-Front populaire, il s'agit également d'une doctrine assez profondément anti-syndicale, hein, puisque l'idée, hein, c'est que dans chaque groupement de métiers, les décisions de fixation des prix, les décisions de fixation des salaires, des quantités de production, etc., etc., seraient choisies par une organisation tripartite avec des représentants patronaux, des représentants ouvriers et un tiers départageant que serait l'État. Mais dans ce cadre-là, par contre, les prérogatives des syndicats seraient considérablement réduites, avec par exemple une interdiction du droit de grève, avec un syndicat qui serait plus un syndicat libre, mais un syndicat, alors les formules évoluent au cours des écrits de François Pérou, soit un petit nombre de syndicats, soit un syndicat unique, mais quoi qu'il en soit, on est dans une proposition aussi d'étatisation du syndicat avec la fin du syndicalisme libre.
Raphaël Fèvre, il faut insister sur l'approche de François Pérou vis-à-vis de ce corporatisme et ce qu'il voit, ce qu'il découvre aussi au cours de ses voyages en Europe, voyage qu'il entreprend notamment grâce à une bourse qu'il obtient de la part de la fondation Rockefeller. Il aurait pu partir aux États-Unis. Non, il part en Europe dans les années 30, donc à une époque où Hitler est déjà arrivé au pouvoir, Mussolini aussi depuis 1922. C'est donc un véritable choix de sa part. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre ce corporatisme que Nicolas Brisset vient de nous décrire et puis la façon dont il est instrumentalisé ou en tout cas mis en place ou mis en place dans les discours dans ces régimes européens, Italie, Allemagne, Portugal aussi que François Pérou découvre et dans lesquels il voyage?
Oui, alors peut-être insister tout d'abord sur le fait que Pérou était finalement une véritable étoile montante de l'économie, d'où la bourse qui a été accordée à très peu de chercheurs en sciences sociales. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main dans ces années-là. Et c'est vrai que Pérou va faire un choix assez étonnant, c'est-à-dire il va pas aller en Angleterre ou aux États-Unis, ce qui il reconnaîtra après-guerre que c'est assez étonnant d'ailleurs qu'un quelqu'un qui a reçu une bourse Rockefeller ne soit pas allé d'abord vers ces États, mais il ira plutôt vers l'Europe de l'Est, en Allemagne en particulier, en Autriche, en Italie et au Portugal. Alors, ce que va faire finalement François Pérou, c'est étudier ce qu'il appelle ses expériences corporatistes et essayer finalement de trier les aspects qui pourraient sembler les plus avantageux, les aspects les plus problématiques, pour tâcher de dégager une doctrine qui soit adaptée au cas spécifique français. Hein, Pérou part toujours de ce principe-là. Oui, il y a ce qu'il appelle lui un fascisme essentiel, hein, parce que ici corporatisme est quand même très largement mêlé à ce qu'il appelle un fascisme essentiel, c'est-à-dire un fascisme qui ne soit pas simplement historiquement celui de l'Italie, mais plus largement une doctrine autoritaire. Mais il faut que cela soit adapté à chacun des pays. Et de ses voyages, en fait, il va tirer un avis assez clair qui est que bien qu'impressionné par l'effort transformateur et la puissance mystique qui se dégage des États de Mussolini et de Hitler, il trouve que ces régimes finalement sont allés trop loin dans la puissance totalitaire accordée à l'État, à la police d'État, et puis aussi dans le cas de l'Allemagne en particulier d'une doctrine raciste et antisémite qu'il rejette clairement dans ces années-là.
Donc, mais ça reste une source d'inspiration pour la France tout de même.
Oui, tout à fait. Hein. Il y a vraiment des aspects dont il. C'est ça qui est dur à évaluer dans l'ouvrage qu'il va tirer de ses voyages, notamment sur les mythes hitlériens, où il va nous dire il y a tout un tas d'aspects qu'il trouve formidable de rénovation de l'esprit, de vaillance, des corps. Donc il y a tout un aspect de rénovation nationale qu'il trouve très important et dont il faut s'inspirer aussi pour la France. Mais certaines pratiques qui ne sont pas à son goût, qui ne semblent pas adaptées au cas français en tout cas. Et là, il va plutôt se tourner vers les expériences autrichiennes, vers les expériences notamment du Portugal, de Salazar, qu'il va qualifier de national-catholicisme. Et donc c'est cet aspect-là, là on retrouve ce que nous disait Nicolas Brisset sur l'importance de cette science sociale catholique, puisque il trouve que finalement le corporatisme portugais s'inspire d'une sorte de philosophie personnaliste, de la doctrine sociale de l'Église, où l'État n'est plus cet absolu, mais l'État s'est mis au service de principes éthiques supérieurs, et c'est plutôt vers ce type de doctrine qu'il aimerait lui-même faire évoluer la doctrine corporatiste, dont il sera en France, hein, il faut vraiment le noter, un des principaux et plus clair contributeur.
Nicolas Brisset, si on devait résumer finalement l'attrait de François Pérou pour ce corporatisme-là, ou le corporatisme selon François Pérou, parce qu'il n'est effectivement pas le seul à s'y intéresser et puis le seul à l'interpréter, à l'adapter, on va dire, au cas français, mais si on devait résumer, c'est que le corporatisme offre une sorte de troisième voie, on va dire, c'est un anti-marxisme, comme le dit Pérou lui-même, c'est aussi une façon de se libérer du libéralisme lui-même. Il faut insister peut-être aussi sur ce deuxième pôle que Pérou cherche largement dont il cherche à s'émanciper. Le libéralisme n'a pas bonne presse. Est-ce qu'on peut dire quand même que François Pérou est anti-libéral d'un point de vue économique? Est-ce que c'est ainsi qu'il se positionnerait?
Alors oui, bon. François Bayrou est un anti, François Bayrou est un anti-libéral absolument complet, hein, que ce soit d'un point de vue politique ou que ce soit d'un point de vue économique. Donc on a déjà abordé ces critiques assez véhémentes vis-à-vis du parlementarisme, vis-à-vis du syndicalisme libre, etc. Mais on a aussi également une sorte d'air du temps, hein, vous évoquez les troisièmes voies, hein, on a beaucoup de monde sur cette troisième voie à cette époque-là. Il y a énormément de propositions qui essayent de se positionner entre le marxisme et le libéralisme. Ce qui est certain, c'est que à partir des années 30, avec une accélération bien entendu à partir de 1931-1932, lorsque la crise de 29 qu'on avait cru éviter en France fouette finalement les côtes atlantiques, on a à ce moment-là énormément de propositions qui arrivent sur la table pour rénover ce libéralisme qui est considéré comme étant particulièrement instable. Et ça, c'est ce qu'on voit en fait dès sa thèse en 1924, ce qu'évoquait Raphaël. On a une instabilité très forte dans les systèmes libéraux, due notamment au pouvoir de marché des grands trusts ou des syndicats, qui font que le prix a du mal à se fixer à des niveaux qui seraient les plus efficaces. Et donc, dans ce concert des troisièmes voies, hein, on a beaucoup de planification, par exemple. On a beaucoup de propositions planificatrices qui peuvent venir, par exemple, de la CGT. Et on a ces propositions corporatistes qui émergent et qui vont s'imposer de fait à partir du moment où le régime de Vichy va arriver et va un peu clarifier le jeu des troisièmes voies, si je puis dire.
Et de fait, on peut d'ailleurs mentionner dans ce contexte-là que le cours de sociologie morale et de l'école normale secondaire, au moment de la prise de pouvoir de Philippe Pétain, est supprimé, ce qui est un coup très dur pour la sociologie durkheimienne vis-à-vis de laquelle François Bayrou s'inscrivait en faux. C'est peu de le dire, parce qu'il y a à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons beaucoup plus morales, on l'a compris, des raisons aussi de qui incarne l'autorité, quelque part. Alors justement, quel a été le rôle de François Bayrou au sein du régime de Vichy et comment évolue la discipline économique en tant que telle dans ce qui ne saurait être considéré comme une simple parenthèse. On en parle dans quelques instants. Du premier nocturne en ut majeur de Francis Poulenc, daté de 1929, à l'époque où François Bayrou prend toute sa place dans le paysage intellectuel et économique, interprété ici par Alexandre Tarot. C'est un choix de Paul Weinharter qui a préparé cette émission. Vous êtes toujours à l'écoute de France Culture. Entendez-vous l'écho dresse aujourd'hui le portrait d'un économiste aux multiples facettes, porte-parole du régime de Vichy et économiste reconnu par la suite et très inséré jusqu'à sa mort en 1987. Alors comment expliquer cet apparent paradoxe, que nous raconte-t-il de la façon dont la discipline économique a évolué aussi depuis les années 40? C'est la question que nous posons à Raphaël Fèvre et Nicolas Brisset, historiens de la pensée économique et maîtres de conférences en sciences économiques à l'Université Côte d'Azur.
La loi ne saurait créer l'ordre social. Elle ne peut que le sanctionner dans une institution après que les hommes l'ont établie. Le rôle de l'État doit se borner ici à donner à l'action sociale son impulsion, à indiquer les principes et le sens de cette action, à stimuler et orienter les initiatives. En réalité, les causes de la lutte des classes ne pourront être supprimées que si le prolétaire qui vit aujourd'hui retrouve dans une communauté de travail les conditions d'une vie digne et libre, en même temps que des raisons de vivre et d'espérer. Cette communauté, c'est l'entreprise. Il est indispensable de créer des organismes qui puissent résoudre vite les questions posées, ou, s'ils ne peuvent les résoudre eux-mêmes, donner à l'État les moyens de le faire, sans que ses décisions soient paralysées par une connaissance insuffisante des problèmes ou par une organisation administrative trop lente à se mouvoir. Travailleurs français, je vous demande d'entendre mon appel. Sans votre adhésion enthousiaste à l'œuvre de reconstruction nationale et sociale, rien de grand ne peut être fait. Sachez vous y donner avec un désintéressement total. Ouvriers, mes amis, n'écoutez plus les démagogues. Ils vous ont fait trop de mal. Souvenez-vous de leur formule. Le pain, la paix, la liberté. Vous avez eu la misère, la guerre et la défaite. Ingénieurs, vous avez pensé trop souvent qu'il vous suffisait de remplir avec conscience votre fonction technique. Vous avez plus à faire, car vous n'êtes pas seulement des techniciens, mais des chefs. Comprenez bien le sens et la grandeur du nom de chef. Le chef, c'est celui qui sait à la fois se faire obéir et se faire aimer. Ce n'est pas celui qu'on impose, mais celui qui s'impose.
Un extrait du discours de Saint-Étienne tenu par Philippe Pétain le 1er mars 1941. Raphaël Fèvre, Nicolas Brisset, nous l'avons dit, vous avez analysé la façon dont les prises de parole de François Pérouse peuvent être interprétées comme des actes de positionnement en tant que porte-parole du nouveau régime. Alors on avait quitté François Pérouse à la fin des années 30, qui est alors proche de la frange traditionnaliste, voire fascisante, hein, de certains mouvements, dont celui du mouvement Esprit. Il publie dans la presse réactionnaire. Dans quelle mesure les propos que l'on entendait à l'instant coïncident d'une certaine manière avec la pensée de François Pérouse, telle que se développe avant-guerre, Raphaël Fèvre? Est-ce que la pensée économique qui est valorisée là, comme on l'entendait, est bien une forme de déclinaison du corporatisme dont on expliquait les tenants et les aboutissants juste à l'instant?
Oui, c'est exactement une déclinaison du corporatisme qui va aller et embrasser finalement une transformation beaucoup plus radicale, ou en tout cas beaucoup plus ambitieuse que simplement l'organisation économique, qui a cette volonté de transformation sociale, sociétale, de rénovation profonde du corps de la société française. Et ça, je pense que cet extrait de Pétain le montre tout à fait. C'est vrai que ça fait écho. Alors on a du mal à documenter la causalité entre les deux. Est-ce que Pétain avait connaissance vraiment de l'œuvre de François Pérouse en tant que tel, puisqu'il reprend cette notion de communauté de travail? Mais en fait, la causalité directe, on n'en a pas vraiment besoin, dans la mesure où Pérouse lui-même va calquer, poser ce concept de communauté de travail qu'il développe dès 36-38. Il va le mettre au service de la révolution nationale et nous dire se montrer tout à fait satisfait de l'arrivée de ce vocable de communauté de travail dans les cercles décisionnaires de Vichy. Donc ça va être un moment. En fait, Pérouse, bien qu'une figure montante de l'économie, bien qu'aspirant à un discours public, est quand même resté largement en deçà de ce que certains économistes et de la place que certains économistes ont pu occuper. Par exemple, Sauvy, qu'on mentionnait la dernière fois dans l'émission, lui était bien en retrait. Et là, en quelque sorte, ça va être son moment, ça va être l'opportunité importante où son discours devient, par le jeu de l'histoire, le discours dominant du régime au pouvoir. Et il va saisir cette opportunité à bras-le-corps.
Alors c'est son moment, vous l'avez dit, Nicolas Brisset. Qu'est-ce qu'il advient de François Pérouse lorsque le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale réunie à Vichy vote les pleins pouvoirs à Philippe Pétain? C'est le début du régime de Vichy. Là, François Pérouse opte pour quelle option, quelle place il occupe dans ce régime?
François Pérouse, sous le régime de Vichy, est absolument partout. On le retrouve dans énormément d'endroits. Raphaël Fèvre le soulignait en début d'émission. On le retrouve dans énormément de commissions proches du pouvoir, la question de la rédaction de la Constitution de Vichy, proche du ministre des Finances, etc. On le retrouve défendre l'œuvre doctrinale de corporatiste du régime de Vichy, notamment ce document qui est absolument central, qui est la charte du travail, qui est littéralement la manière, le corporatisme en acte et en droit sous le régime de Vichy. Et on le retrouve également secrétaire général d'une institution absolument primordiale qui est la fondation Carrel, dirigée par un médecin eugéniste, Alexis Carrel, qui est en quelque sorte l'institution destinée à donner, je mets des guillemets partout, une sorte de crédit scientifique à l'œuvre du régime de Vichy. Bah, cette institution est dirigée de 1942 à 1943, fin 43, par François Pérou.
Alors pour bien comprendre l'importance de cette fameuse charte du travail, je vous propose d'écouter une archive datée du 5 décembre 1941 où l'on entend Albert Begrasse, membre du Parti populaire français, homme politique d'extrême droite donc et collaborateur durant l'occupation.
La nouvelle charte du travail est à l'ordre du jour. Nos opérateurs ont pu filmer pour vous un débat sur ce problème vital. Monsieur Albert Begrasse.
Comment alors s'étonner d'entendre les travailleurs français déclarer que rien n'est changé et que la révolution reste à faire. Nous ne voulons pas nous étendre plus longuement sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on a mal fait.
Mais la charte n'a pas voulu s'inspirer des expériences faites par l'étranger.
Chez nous, bien avant l'avènement du national-socialisme, des hommes ont proclamé la haute prééminence du travail et la nécessité d'un système de communauté permettant à leurs membres de collaborer sans hargne malgré les diversités des professions et des fonctions. Allons-nous nous refuser d'appliquer les principes français parce que d'autres nations s'en sont emparées et les ont mis en œuvre avant nous ?
Raphaël Fèvre, il faut là encore remettre les choses dans leur contexte. Très concrètement, à quoi sert cette charte du travail ? Quel rôle elle a joué lorsqu'elle est élaborée à partir de mai 1940 ? Est-ce que c'est une clé de voûte aussi du système plus théorique et donc plus économique du régime de Vichy ? Est-ce qu'on peut le présenter ainsi ?
Oui, tout à fait. C'est le système d'organisation qui, en droit, va nous dire comment on passe d'une économie de marché libre, en quelque sorte, à un système hiérarchisé, corporatisé, qui va s'organiser finalement autour de comités d'organisation, de comités sociaux qui sont des structures qui renvoient à des branches de métiers particulières et qui renvoient par un système hiérarchique à un niveau régional, à un niveau national pour tâcher de dépasser ce dont on parlait avant, c'est-à-dire l'indétermination des prix, la gestion de la pénurie, de la production, évidemment aussi pendant la période de la guerre, il faut pas oublier cet aspect-là. Et donc on a un document fondamental à l'image de ce qui avait fait en Italie, ce qui avait été fait en Italie fasciste, à l'image de ce qui était fait également au Portugal, qui doit organiser et nous dire comment les relations de travail, les relations entre capital et travail, la question des prix doit être déterminée à un niveau législatif en quelque sorte.
Nicolas Brisset, vous nous avez dit que François Pérou est absolument partout à cette période donnée là de l'histoire. On pourrait dire qu'il y a une forme de paradoxe. Le régime de Vichy n'a pas franchement été tendre avec les intellectuels, loin de là. Comment expliquer que François Pérou parvienne tout de même à tirer, on va dire, ses cartes du jeu et à survivre malgré tout, justement porté par ce mouvement-là. Est-ce qu'en tant qu'intellectuel, il entend refonder aussi cette place même de l'intellectuel et de son rôle pour la France ?
Oui, alors effectivement, c'est quelque chose de relativement paradoxal. On est face à un régime clairement anti-intellectualiste, ça c'est tout à fait clair, mais qui va également essayer de se doter de manière paradoxale de ses propres intellectuels. On est sur une sorte de mutation de la figure de l'intellectuel à ce moment-là. Et le discours de Saint-Étienne, qui est absolument central, que vous nous avez fait le plaisir de passer, est extrêmement révélateur à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous écoutez ce que dit ce que dit Philippe Pétain, il nous dit technicien, oui. Vous êtes des chefs, d'accord, les organisateurs, les intellectuels, tout cet appareil et tout ce qui va être développé au moment de la fondation Carrel doit se mettre au service de la destinée d'un pays qui est symbolisé par le destin d'un chef, Philippe Pétain, et d'un ensemble de chefs qui vont diriger les entreprises et la vie politique de ce pays. Donc, on a une inféodation comme ça des figures intellectuelles à cette grande destinée mystique qui est systématiquement mise en avant, notamment dans le cadre de ce discours. C'est comme ça que Pérouse se trouve une place et qu'il va vraiment pouvoir saisir Vichy comme une opportunité pour installer des institutions qui vont d'ailleurs rester après la chute du régime, après la libération.
Nicolas Brisset, vous mentionniez l'Institut Carrel, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, du nom du médecin Alexis Carrel. Donc cette fondation Carrel a été très bien dotée, je crois, financièrement aussi sous le régime Vichy. Est-ce que c'était une occasion particulière pour François Pérouse d'imposer une certaine vision de l'économie? Alors quelle place il occupait spécifiquement dans cette fondation-là?
Alors dans cette fondation, déjà, il l'a dirigée, il en a été son principal secrétaire général, et ensuite il dirigeait une section, la section 6 de biosociologie, c'est ça, au sein de laquelle il va pouvoir mettre en place un petit groupe d'économistes, le centre d'échange de théorie économique, qui est regroupé autour de lui un certain nombre d'économistes, relativement jeunes à l'époque. Pérouse a la quarantaine à cette époque-là, c'est un petit peu l'aîné de cette bande d'économistes qui ont pour la plupart, c'est pas le cas pour tous, mais une trentaine d'années, qui sont en phase de passer leur agrégation ou qui viennent à peine de la passer et qui, en d'ailleurs, après la guerre, auront tous des chaires d'économie disséminées un petit peu partout en France. Et dans le cadre de ce centre d'échange de théorie économique, il va mettre en place une véritable politique scientifique dont on a du mal à voir les fruits parce que l'expérience, le temps a beau être très dense à cette époque-là, l'expérience est quand même relativement courte, mais on a l'organisation de séminaires, de discussions, de beaucoup de traductions de textes venant d'Italie, venant d'Angleterre, venant des États-Unis, et tout un processus de valorisation, on dirait aujourd'hui, de la recherche via des publications. On a la création de la collection Théoria aux presses universitaires de France, qui est destinée à l'économie, dans laquelle les économistes de ce centre de recherche vont pouvoir publier des ouvrages. On a de nombreux articles qui sont également publiés. Donc on a toute une production économique qu'on peut aujourd'hui consulter.
François Pérouse, professeur au Collège de France, a bien voulu répondre aux questions d'Alain Guelfi sur l'Institut de l'étude pour le développement économique et social dont il est le directeur. Après un hommage à l'action menée par son prédécesseur, Henri Laugier, François Pérouse précise les buts de l'Institut.
Cet institut a eu des débuts extrêmement modestes, ainsi qu'il était nécessaire. Nous avions, il y a quelques 6 ans, 50 étudiants. Nous en avons aujourd'hui 500 étudiants et stagiaires. Nous disposions d'un budget modeste de quelques millions d'anciens francs. Aujourd'hui, nous avons un budget de quelques 200 millions de francs anciens, et il est très insuffisant. Nous étions en quelque mesure des pionniers, presque inconnus de l'opinion publique, et peut-être suspects à quelques éléments de l'université, mais les choses ont très vite changé. Nous pouvons dire qu'en quelques années, l'Institut a changé de structure, de caractère, de niveau. C'est aujourd'hui un organisme de travail, de recherche, d'études, surtout un organisme d'enseignement. Et nous nous efforçons, non pas de distribuer une science hésitante, comme dit dans un journal un chroniqueur un peu pressé, mais bien un savoir contrôlé par toutes sortes de sciences, un savoir pluridisciplinaire qui est demandé en France et à l'étranger pour les programmes et pour les plans de développement.
Nous avons opéré volontairement un large saut dans le temps. On retrouvait la François Pérouse en 1965 dans l'émission Enquête et commentaires sur France Culture. Et on arrive là au grand paradoxe, Nicolas Brisset. Comment expliquer qu'il y ait à la fois une forme de coupure mais aussi de continuité? On retrouve là François Pérouse avec sa volonté d'avoir une vision pour la discipline économique, ce qu'il avait aussi dans les années 40. Comment s'est passée la transition entre les deux régimes pour François Pérouse? Ça n'a pas posé trop de problèmes. On le retrouve à des postes tout de même assez important, vous l'avez dit, 1955 à la chaire économie du Collège de France.
Bah écoutez, ça s'est pas trop mal passé pour lui à la Libération. Premièrement, il hérite hein, de cette ISEA, de ce centre de recherche qui est un rejeton de la Fondation Carrel. Il va derrière pouvoir être professeur au Collège de France, comme on l'a déjà signifié. Et il poursuit en quelque sorte hein, cette idée de créer une pensée économique française, hein, faire passer les idées économiques étrangères par les cerveaux français pour les adapter aux conditions économiques françaises. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ça a été aussi facile pour lui de sortir de la guerre? Ben, je pense que ça a été un petit peu à l'image de l'intégralité des technocrates de cette époque-là. On a eu besoin d'eux. On n'a pas parlé trop de ces questions-là. Il y avait une véritable omerta autour de cette question-là, chez François Pérou. Et il était entouré de personnes, comme je vous le disais, de jeunes économistes qui derrière vont irradier l'intégralité des chaires d'économie en France. Telle une sorte de glacis protecteur autour du maître. En tout cas, c'est une hypothèse.
Et puis ce rapprochement avec les groupes de résistants que vous mentionniez aussi au début de l'émission. Un grand merci à tous les deux, Nicolas Brisset et Raphaël Fèvre, d'avoir retracé pour nous le parcours biographique, mais aussi intellectuel de ce personnage très particulier qu'est François Pérou. Et puis sans doute à une prochaine fois, ce sera avec plaisir. Mais un grand merci à tous les deux.